cette journée, au départ, je me disais, je vais vous parler de bonté, de bienveillance. Après, je me suis dit, mais pourquoi pas élargir encore à toutes les qualités du cœur, en fait, dans la pratique. Comment on peut vraiment mettre en place une pratique, comment pratiquer avec le cœur. Comment vraiment se sentir soutenu par ça, puis comment le mettre en place. Parce que c'est vrai que pour pouvoir se mettre sur des bons rails dans la méditation, pour pouvoir vraiment éprouver des changements transformateurs, puis pouvoir vraiment révéler ce qu'il y a au fond de nous-mêmes, c'est essentiel de pouvoir cultiver ces qualités du cœur. Et ce n'est pas évident de savoir comment se prendre par la main et puis d'avoir une bonne personne à l'intérieur de nous qui nous dit « Allez, viens, allez, vas-y, encore un peu, ça va aller. Hein, » qui nous encourage. D'entrer en amitié avec nous-mêmes et puis avoir cette personne à l'intérieur qui nous dit « Mais je suis là, je suis à l'écoute, t'inquiète pas. » Parce qu'on rencontre des énergies difficiles dans les sensations, dans les émotions, dans les pensées, tout nos systèmes de croyances, dans la méditation, il y a tout qui se révèle petit à petit. Puis d'être être un bon compagnon pour soi-même. Souvent, on essaie d'être des bons compagnons pour les autres. Puis en fait, quand on commence à méditer, on se rend compte qu'on est le pire compagnon qui soit pour nous-mêmes. Hein, comme si à l'intérieur, on pouvait se dire, mais ouais, quelle belle personne tu es déjà. T'as pas à être encore mieux, encore plus. Et bien sûr qu'on éprouve cette sensation de manque, cette sensation de ne pas être assez à la hauteur, etc. par moment, ou selon nos tendances et nos difficultés, ça peut être vraiment des schémas que l'on porte depuis tout petit. Mais tout ça pour dire, voilà, comment est-ce qu'on peut vraiment utiliser le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir l'insuffler dans la méditation. Et du coup, pouvoir après, avec le temps, ben ça s'apprend, puis pouvoir méditer petit à petit, mettre ça en place dans la vie, et puis petit à petit vraiment intégrer la méditation dans toutes les dimensions de notre vie, donc la pleine conscience. Parce que souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que on médite vite, on rentre vite dans nos habitudes quand on médite, et on le fait avec toutes nos autres activités de la même manière, c'est-à-dire qu'on peut... On peut méditer avec dureté, on peut méditer en forçant, en se mettant la pression, on peut méditer avec beaucoup d'ambition, en se disant je vais méditer à fond, dans les 6 mois, je me fixe tel objectif, etc. etc. C'est des tendances qu'ont certaines personnes de fixer des performances dans tout ce qu'ils font. D'autres, ça va être de très vite se décourager, dire non, mais j'en suis pas capable. Il y a beaucoup de doutes qui émergent. On peut vite éprouver de la honte parce que quand on médite, ben, au départ, on est plein d'élan, on a plein d'énergie, on se dit ça va le faire, etc. Puis en fait, on se rend compte que l'esprit continue à être agité comme pas possible. Il y a des pensées, ça tourne en rond, ça projette. Puis ensuite, il y a telle et telle chose qui revient tout le temps. Et puis, on est vraiment face à nos limites, à notre vulnérabilité. Et on peut éprouver de la honte. Pas une honte qui est générée par la méditation, mais qui est aussi... qui peut être la conséquence de choses qu'on a traversées dans nos vies, en tant qu'enfant ou plus tard. Et tout ça, ça se révèle. Bien sûr, l'autocritique et les auto-jugements font partie de tout ça. Et là, méditer comme ça, c'est pas très joli, c'est pas très sympa, disons. Il n'y a pas beaucoup de joie là-dedans. Bien sûr, quand on médite, on va rencontrer ce qui est. Donc, sans prétendre à se créer un univers de pâquerettes et de lilas, et puis s'imaginer que des images magnifiques. On va vraiment dans le cœur du sujet. On va dans la vie, dans l'instant, dans ce qui est là. dans nos profondeurs, dans nos parts d'ombre. Mais de là à entrer en guerre la contre et à se laisser totalement absorber dedans, c'est pas non plus le bon chemin. Ça mène au découragement, puis à la perte d'estime de soi. Hein, on parle beaucoup de non-soi dans la méditation. Le non-soi, c'est pas de la non-estime de soi. Donc, comment faire de la méditation vraiment un terreau de libération, vraiment une pratique qui amène à quelque chose qui ouvre au niveau du cœur et de la conscience, que ce soit pour soi-même et puis pour les autres, et d'en faire vraiment quelque chose qui nous éveille. Peut-être vous savez qui a donné cette parole, mais moi, j'arrive pas à la retrouver. Personne qui disait refuser d'aimer parce qu'on a peur de souffrir, c'est comme refuser de vivre parce qu'on a peur de mourir. Alors c'est vrai qu'avec la méditation, vous l'avez peut-être éprouvé aujourd'hui, on se pose et il y a des douleurs, il y a de l'agitation, après il y a de l'ennui, après il y a qu'est-ce que je, pourquoi est-ce que je suis là, j'aurais mieux fait d'aller faire la voile, marcher en montagne. Tout ça, c'est des. Au niveau de l'esprit, il y a tout plein de créations. L'esprit voudrait être forcément ailleurs parce que il est tout à coup face à lui-même. Et puis le corps, qui porte tous nos stress, toutes nos tensions, c'est dur de tout d'un coup être là avec. Voilà. Au quotidien, on est toujours dans le mouvement. Dès qu'on se pose et puis qu'on éprouve un brin de. Un brin de tristesse, ou je sais pas, etc. Tac, on prend le téléphone, deux, trois vidéos sur YouTube, etc. On se distrait constamment. Et quand on vient ici à s'asseoir, le film, c'est celui qu'on se fait à l'intérieur et qu'on découvre. Donc le Bouddha, lui, il a parlé de quatre qualités du cœur. Qu'on peut bien sûr cultiver dans la pratique, et c'est ce dont je vais vous parler vraiment aujourd'hui, comment on peut cultiver ces qualités dans la pratique, et bien sûr qu'on peut cultiver au quotidien, à travers nos paroles, nos activités, nos relations, notre manière de vivre, etc. Là, il s'agit plus de savoir comment on peut prendre soin de nous-mêmes, et puis bien sûr, au quotidien, c'est comment on prend soin des autres, de la planète et tout ça. Et ces quatre qualités, c'est la qualité de bienveillance ou de bonté, c'est la qualité de compassion, la qualité de joie et la qualité d'équanimité. Metta, Karuna, Mudita et Upekkha en pali. Et puis je vais prendre un peu les uns après les autres et puis sortir de choses qui, moi, en tout cas, me soutiennent dans mon travail, sur mon chemin. Donc, metta, c'est la bonté, la bienveillance. Et ce qu'on peut voir, en particulier quand on, par exemple, bien sûr, quand on est en retraite, en journée, mais quand on s'assoit, tous les jours, un petit moment, on peut se poser. Et puis il suffit que voilà, on ait des journées stressantes. On vit pas tous dans des peut-être personne probablement en fait dans des environnements où on est complètement nourri en paix, en silence, où ça crie pas à gauche à droite. Non, je crois qu'en fait ces gens sont pas sur la même planète. Mais voilà, où il n'y a pas de tension, etc. Ce qu'on peut vraiment essayer de faire, c'est que quand on arrive le soir et puis ou le matin quand on médite, c'est vraiment s'abstenir de tout auto-jugement sur ce qu'on rencontre dedans, à l'intérieur. Alors bien sûr, des fois, ils sont plus forts que nous, il y en a quand même, alors on dit, ok, je m'auto-critique là, et je ne peux pas faire autrement, et puis je vois que c'est comme ça. Et si j'ai vraiment fait une connerie, autant le faire. Il y a aussi le Bouddha a aussi parlé de la bonne honte. Hein. Il y a aussi la bonne honte de reconnaître nos actes et nos paroles quand elles ne sont pas adéquates. Mais sinon, vraiment s'abstenir d'auto-jugement, d'auto-critique, c'est vraiment aidant parce que ça nous permet vraiment de sortir de mes problèmes et mes histoires et tout ce que je construis dessus pour aller vraiment à la rencontre de l'expérience dans l'instant, au niveau énergétique, hein, au niveau corporel. De dire, ok, juste maintenant, j'ai une journée super tendue, je me pose, je rencontre toutes ces tensions, il y a peut-être encore de la colère, du ressentiment, etc. Ah, ok, comment c'est? Puis juste rester là, et puis explorer. Et parce que rien ne sert d'en remettre une couche. Hein. Par exemple, s'il y a de la colère, d'être en colère contre ma colère, ou s'il y a de la culpabilité, d'être en colère, ou de l'aversion sur la de ma culpabilité, c'est ce qu'on fait généralement, on rajoute des couches d'oignons sur tout. Et les tensions et les difficultés qui sont déjà présentes, c'est déjà amplement suffisant, il n'y a pas besoin encore de rajouter une couche d'oignon, disons une flèche par-dessus, une deuxième flèche. Donc, c'est vraiment bon quand on peut juste se poser et puis dire, ok, quoi que j'y trouve, comme dirait Fabrice Midal, je me fous la paix. Je me fous la paix. Et on pourrait dire ça de manière plus douce, je me laisse tranquille. Mais je reste juste avec ce qui est, comme c'est. Ok. Et l'autre aspect peut-être de la bonté, c'est de savoir s'offrir de la bonté avec générosité. Savoir s'offrir metta à soi-même. Hein, de savoir inspirer la santé, la joie, la réussite, la patience, le bonheur, et de se l'offrir vraiment à soi-même. Certains d'entre nous arrivons à le faire pour les autres. Mais c'est comme si nous, on ne le méritait pas. Ou on est un peu handicapé. On a jamais appris vraiment à le faire. Parce qu'on a toujours appris à répondre aux besoins des autres, mais pas forcément à écouter les nôtres. Et puis de dire, mais ah, moi aussi, j'ai le droit de m'offrir ce besoin de me sentir en sécurité, de ce besoin de me sentir heureux, de me sentir en paix. Longtemps, j'ai cru que c'était de l'arrogance de faire ça pour moi. Et puis petit à petit, je suis en train de changer d'avis. Ça prend du temps. Donc, on peut le faire par les paroles, comme je vous présenterai, ou par la respiration aussi. Je proposerai quelque chose juste après. C'est Mère Teresa qui dit, dans cette vie, nous ne pouvons pas accomplir de grandes choses. Nous pouvons seulement faire de petites choses avec beaucoup d'amour. Et des fois, quand on entend ce terme de bonté, on s'imagine un absolu où il faudrait être dans l'amour absolu constamment pour soi-même, les autres, et puis on met une barre extrêmement haute pour tout. Faudrait aimer les personnes avec qui c'est difficile, faudrait aimer nos parties difficiles, faudrait, voilà, il y a beaucoup d'il faut, quoi. Oui, il faut et je dois. Okay. Mais c'est oublier que de mettre l'attention sur ce qui est, même quand c'est une part d'ombre, une part moins reluisante de nous-mêmes, c'est déjà de la bonté. Parce que c'est reconnaître les choses telles qu'elles sont. C'est pas de prétendre à autre chose et de se mentir à soi-même ou. C'est juste de dire, ah ben voilà, ouais, cette nuit-là, bon, l'autre nuit, parce que j'ai mes enfants qui m'ont réveillé toute la nuit, j'éprouvais de la rage. C'était horrible. J'éprouvais de la rage, je ne pouvais plus. Et ça s'est passé. Mais mes enfants vont bien, hein, je ne vous inquiétez pas. Mais c'était vraiment difficile, c'était vraiment. À 3h du matin, on est pris dedans et tout, on a envie de crier. Et juste de voir, waouh, ça, ok. Sur le moment, on ne peut pas le faire, mais après qu'on me dise, wow, ça c'était de la rage, là j'en avais vraiment marre, et puis c'était comme ça, puis je sens que ça me tend partout. Et à ce moment-là, je ne peux pas dire que je vois des pâquerettes et puis que tout le monde il est beau, puis c'est des bisounours lambda, hein. Pas du tout. Mais juste le fait de mettre l'attention là-dessus, c'est de voir quand chacun de nous, même si on enseigne le vipassana ou quoi que ce soit, ou quoi, machin, il y a en nous des parts qui peuvent être. Si on nous met dans les bonnes conditions, je veux dire, on peut devenir vraiment dur, quoi. Et là, ça m'a surpris de voir ça émerger en moi. Et on a tous, hein, en nous-mêmes, tout ça. Donc il ne s'agit pas, quand on monte sur un chemin de spirituel ou de développement personnel, croire que tout d'un coup, il faille aimer tout le monde et puis que tout le monde il est beau, il est gentil. Non, aller à la rencontre de ce qui est le plus profond en nous, c'est vraiment une belle forme de bonté. Il n'y a que comme ça qu'on peut les dépasser. Karuna, c'est la compassion. Et ça rejoint un peu ce que je vous disais avant, c'est de. Avec la compassion, c'est cette qualité de présence qui permet de demeurer avec l'expérience difficile. Et de reconnaître quand il y a de la peine, quand il y a de la douleur, de la peur, des tensions, de l'inquiétude. C'est absolument primordial parce que on est fait de telle manière à ce que quand il y a une expérience désagréable qui nous habite, soit on la fuit, soit on lutte contre, soit on se fige. Ou on cherche à contrôler, on cherche à la transformer. Mais jamais on cherche à juste rester avec et rien faire, et juste écouter comme elle est. Donc on rentre dans des schémas de comportement, dans des schémas de pensée, dans lesquels on s'emprisonne toute notre vie. Comment c'est quand tout d'un coup, tac, il y a un contact, il y a quelqu'un qui me parle de manière difficile, donc, qui ne me plaît pas, qui est désagréable. On peut voir tout d'un coup tout de suite la réactivité qui vient. Besoin de se défendre, besoin de défendre son point de vue, besoin d'attaquer. Certains ils attaquent, d'autres ils se figent, ils se pétrifient parce qu'il y a une sorte de conflit qui se met en place. D'autres ils plaisantent et tout pour essayer de contourner le truc. Mais juste être là, avec ce qui est. Bon, des fois l'instant fait que c'est une personne en face de nous. On dit bon, stop 2 secondes, là je vais juste sentir ce qui est. C'est pas possible, mais quand on est dans l'assise, on peut voir avec toutes ces énergies aussi qui sont là. Et c'est là où, en fait, plus on pratique, un enseignant est aussi utile et nécessaire pour savoir comment, justement, on peut, avec justesse, accueillir ces énergies qui sont très, très fortes. Parce qu'il peut y avoir des expériences traumatiques qui sont vraiment ancrées dans le système nerveux, avec des flashbacks, avec des choses vraiment dures. Et là, juste rester avec l'expérience, ça peut être retraumatisant. Donc il y a tout un art de savoir quel outil on prend, comment on s'y prend pour pouvoir des fois vraiment accueillir avec compassion ce qui est en nous, ce qui se présente. Donc on apprend la base, c'est d'apprendre à déjà juste de reconnaître et puis à de respirer avec l'expérience, à la bonne distance, ni trop proche, ni trop loin, à rester avec ou ni dans le corps. Et généralement on cherche à solutionner des problèmes, mais l'exercice, on peut, hein, peut-être des fois c'est nécessaire, et puis on peut le faire à travers des outils qu'on a, ou une psychothérapie, ou d'autres choses, d'autres outils. Mais dans l'exercice propre de la méditation, il s'agit à la base, hein, après il y a différentes choses, mais de demeurer juste avec l'expérience et puis de sentir comment c'est. Puis de petit à petit d'ouvrir son cœur au fait que oui, je suis humain et la vie, c'est ça. On est dans un monde de dualité, les choses elles changent. Il y a de la peine, il y a de la joie, ça, et que je le veuille ou non, c'est comme ça. Et d'accepter, hein, une acceptation sage. Et ça, c'est la qualité qu'on verra après, plus tard. C'est Pema Chödrön qui, c'est une nonne américaine, bouddhiste, tibétaine, qui écrit des jolis bouquins, qui dit: ce que je préconise ici exige donc du courage, le courage de changer de disposition. Il faut du courage parce que dès qu'on ne s'en tient pas à ses habitudes, c'est-à-dire endurcir le cœur et s'accrocher à tout prix à certains points de vue, on se retrouve avec le malaise profond qu'on cherchait justement à éviter. Dès qu'on se sent menacé, on se raidit. Et si on ne se crispe pas, que se passe-t-il? On reste avec cette gêne, ce sentiment de menace. C'est là que commence le véritable parcours du courage. C'est le véritable travail de l'artisan de la paix, trouver le point de vulnérabilité et la tendresse dans ce lieu très malaisé et demeurer avec ce point. Quand on arrive à rester dans cette vulnérabilité, le cœur tendre, on cultive alors les semences de la paix. Et vraiment, quand on apprend vraiment à rencontrer la peine en nous, la peur, l'inquiétude, ça nous ouvre vraiment aux autres. Et ça nous ouvre vraiment à la peine des autres. Et ça nous lie vraiment dans le cœur avec les autres. Dans le sens où on voit qu'on est tous pareils et qu'on traverse tous des difficultés qui sont différentes. Et qu'on aspire tous à être heureux. Sauf que l'humain s'y prend de manière extrêmement diversifiée et puis pas toujours de la manière la plus altruiste qui soit, la plus constructive. Mudita, c'est la joie altruiste. Et comment méditer avec la joie? Je me suis un peu posé cette question. Ce qui m'est venu, c'est qu'en fait, en tout cas moi, ce qui me génère de la joie, c'est de me rappeler que quand je suis sur le coussin, bah dans des journées comme ça, vous êtes là. Alors du coup, ça m'apporte de la joie parce que on est tous assis à faire cet effort d'être là avec ce qui nous habite. Certains, il y a des tensions dans le corps, d'autres, il y a d'autres choses, etc. Il y a cette bonne volonté de se dire: ok, je vais faire cet effort et on va être là tous ensemble. Parce que l'intention, elle est belle. Et c'est beau de rencontrer finalement, surtout dans le monde actuel, de se rejoindre dans un élan qui fait la beauté de l'humain. Et pas ça. Je ne sais pas quoi dire, ça. Vous compléterez. Hein, et c'est courageux de faire ça. Et de la même manière, quand on est seul à la maison, qu'on médite, on sait qu'au même moment sur la Terre, il y a probablement plein de gens qui sont assis à ce moment-là, en même temps, puis qui font cet effort pour pouvoir vraiment se libérer et vraiment après apporter le meilleur de ce qu'il a pour les autres et puis pour soi-même. Et ça, c'est la force de la sangha, de la communauté. Généralement, on parle de la sangha quand on est vraiment un groupe, mais on peut l'élargir à tous les amis spirituels, entre guillemets, toutes les personnes qui se disent: bon, allez, il y a quelque chose d'autre que simplement faire des projets pour mes nouvelles vacances, m'acheter un nouveau truc comme ça, même si c'est très cool et puis on continue à le faire. Mais il y a quelque chose encore de plus fort derrière, qui m'habite et que j'ai envie de comprendre. Et c'est là aussi où c'est bon, dans la vie, de pouvoir avoir des amis avec qui on peut parler de ça. Hein, on a différentes, des fois, catégories d'amis. Il y a les amis pour la fête, il y a les amis pour les amis intels, et puis il y a les amis spirituels avec qui il n'y en a pas beaucoup, souvent. Puis des fois c'est les mêmes, hein, mais ça peut arriver que c'est les mêmes amis pour la fête et puis pour les amis spirituels, mais il n'y en a pas toujours beaucoup avec qui vraiment on peut. Il y a une complicité et puis on peut vraiment parler de tout. Et puis pas uniquement du nouvel iPhone 10 ou de la fête d'il y a 15 ans et tout, qu'on a déjà. Cool, mais qu'on a déjà répété. Qu'on s'est déjà remémoré 200 fois. Et puis l'autre aspect de la joie, c'est vraiment de se souvenir aussi de tout ce qui va bien dans nos vies. Parce que quand on médite, forcément, on parle beaucoup de dukkha, qui est ce qu'on appelle la souffrance ou disons l'insatisfaction. Parce que le Bouddha estimait que pour être heureux, il n'y a pas besoin de nous enseigner à être heureux, on sait le faire, parce que le bonheur est déjà en nous-mêmes. Mais par contre, on a à comprendre les causes de ce qui nous rend malheureux. Et en comprenant les causes de ce qui nous rend malheureux, ben, après, on est heureux. Donc on parle beaucoup de l'insatisfaction, de la peine, de la colère. C'est passé souvent beaucoup d'énergie qu'on cherche à fuir, ou dans lesquelles on est emprisonné. Et quand on se pose, on les rencontre immanquablement. Mais c'est aussi important de se souvenir de tout ce qui va bien, de toutes les belles conditions qu'on a, quand on fait par exemple la méditation sur les ressentis, de voir, oui, il y a des endroits qui peuvent être très douloureux, etc. Mais de se dire, oh, bah, tiens, mais en fait, dans les mains, c'est pas partout horrible. Hein. Là, il y a, tout le coup, il y a des mains où c'est ok, ah, c'est bien, je peux même sortir des choses. Et puis, j'ai un avant-bras qui me fait pas mal. Cool. Hein, c'est le jour où j'ai le bras cassé, à ce moment-là, je me dirais que c'était chouette d'avoir un avant-bras qui était en bonne santé, ou un coude qui fonctionne bien. C'est des petites réalisations comme ça, derrière le. On peut voir tout ce qui va bien. Aussi en moi, il n'y a pas que du. Je ne suis pas que névrosé ou traumatisé. Il y a plein de belles choses. Dans les relations aussi, il n'y a pas tout qui va mal. Donc, nourrir aussi la gratitude, c'est aussi très très important, et ne pas l'oublier. Et c'est le frère, un frère chrétien qui disait, je ne sais plus, « Le monde ne t'apporte pas la joie, mais il ne peut pas non plus te l'enlever. Même si des gens volent ma vie pour la détruire, ils ne me prendront pas ma joie. Chaque nouveau matin, je n'ai besoin de personne pour sourire. Je ris tout seul, parce qu'il m'est donné de vivre un nouveau jour. Ce n'est pas le bonheur qui nous rend reconnaissants, c'est la reconnaissance qui nous rend heureux. Chaque instant est un cadeau. » Et finalement, la dernière qualité, c'est la qualité du cœur sage. C'est cette qualité d'acceptation de l'expérience telle qu'elle est juste maintenant et de ce cœur qui a la confiance dans l'incertitude de la vie et qui sait que ce soit les choses belles comme les choses difficiles. Les choses, elles changent. Elles sont, parce que c'est une loi universelle, la loi de l'impermanence. Ça bouge, ça change. Je n'ai pas besoin de me crisper. Et je peux garder le cœur ouvert. C'est l'équanimité. Bien sûr, il y a des préférences, on préférait que ça soit comme ci, comme ça, mais j'ai plus d'exigences, vraiment. Et finalement, j'ai des préférences, mais finalement, les choses, elles viennent comme elles viennent. Et quand le cœur, il peut être là-dedans, oh, c'est vraiment. Ça détend beaucoup. Parce qu'on n'est pas tout le temps comme ça. Je suis tout le temps en train de courir après quelque chose. Hein, c'est cette parole en nous qui nous dit que je le veuille ou non, juste maintenant, peut-être plus tard ça sera différent, mais juste maintenant les choses elles sont telles qu'elles sont. Et le cœur qui fait ok, juste maintenant les choses elles sont telles qu'elles sont. J'ai pas trop à chercher à comprendre pourquoi. Et c'est là où on rencontre vraiment la vie. Ah, on n'est plus dans notre film. On est juste dans la vie telle qu'elle est vraiment. Et ça offre vraiment une très belle assise et vraiment quelque chose qui a confiance dans ce qui peut se passer. Avec tel qu'on est, avec nos aspects éveillés, nos aspects moins éveillés, avec les aspects éveillés de l'autre et moins éveillés de l'autre, avec la douleur ou avec l'agréable ou avec le désagréable. Parce que ce cœur équanime, il sait que la libération, ce n'est pas pour plus tard, quand j'aurai fait 10 ans de méditation, 5 retraites, quand j'aurai changé de job, je serai dans un nouvel appart, et puis qu'enfin, peut-être à ce moment-là, ma situation sera plus stable. Ça, on peut toujours oublier. Mais c'est juste maintenant, à chaque instant. Comment est-ce que juste maintenant, je peux être un peu éveillé, un peu libéré, et encore, incarner l'éveil à chaque instant. Et c'est comme ça que ça vient en nous, et que ça grandit en nous. Donc le but, c'est pas d'être éveillé, mais le but, c'est de se mettre en chemin et de s'ouvrir comme on peut, ou d'être fermé en conscience avec l'expérience juste maintenant. C'est Jack Kornfield qui dit: la sagesse ne consiste pas à connaître, mais à être. Les mystiques chrétiens enjoignirent aux chercheurs de pénétrer d'un cœur confiant le nuage d'inconnaissance. Le cœur sage n'est pas celui qui comprend tout. C'est un cœur qui peut tolérer la vérité de ne pas connaître. La sagesse devient vivante en présence du mystère, quand le cœur est ouvert, sensible et totalement réceptif. De cette simple présence, l'empathie, l'amour, la sensibilité et toutes les choses bonnes apparaissent. Donc lorsqu'on cultive ces 4 qualités, on retrouve ces 4 qualités, le Bouddha a parlé de ces 4 qualités comme des demeures divines, on retrouve, si on veut, notre flamme divine notre espace intérieur divin, d'être qui fondamentalement est déjà éveillé, a déjà tout en lui, mais il s'agit de dévoiler des choses plutôt que de devenir plus ou d'atteindre quelque chose. Il s'agit de dévoiler quelque chose qui est déjà en nous. Et ça nous donne cette flamme pour aller, pour avancer, puis de se dire: mais qu'est-ce que je fais là, dans cette vie? C'est quoi le sens de tout ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Hein? Qui suis-je fondamentalement? Je suis juste Nicolas, et je suis limité à ça, ou quelle est ma nature profonde? Et ça, c'est difficile de le mettre en mots, c'est des choses qui sont très intimes et personnelles à chacun, et puis à certains moments de la vie peuvent tout d'un coup émerger, se faire sentir, puis après de nouveau disparaître, puis après de nouveau réémerger en soi. Et je vais finir avec une parole qu'a prononcée Nelson Mandela dans son discours d'investiture. C'est pas une parole de lui, mais il l'a reprise dans son discours. En 94. Notre peur la plus profonde n'est pas de ne pas être à la hauteur. Notre peur la plus profonde est d'être puissant au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question: mais qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous, et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres.